quand on est croyant, on n'arrête pas pour autant de souffrir. En fait, par certains aspects, on souffre davantage quand on est croyant. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu dans le passé. On souffre davantage, par exemple, en France, quand on est croyant, d'une certaine hostilité sociale ou médiatique. Dans d'autres pays, on souffre davantage quand on est croyant d'une persécution politique qui parfois pourrait vous conduire en prison, voire même vous faire subir diverses tortures ou encore la peine de mort. Quand on est croyant, on souffre davantage, et ça c'est peut-être le cas un peu partout, du rejet ou du mépris de nos amis ou de certains de nos amis ou de certains membres de notre famille. Quand on est croyant, on souffre davantage moralement, de la conscience de notre péché, du remords de l'avoir commis. On souffre davantage de la culpabilité parfois et du découragement d'être tombé une fois de plus. Et parfois les croyants souffrent intensément mais secrètement parce qu'il y a des choses qui sont inavouables dans nos belles églises. On souffre intensément mais secrètement dans notre fort intérieur en raison d'un certain penchant de notre cœur, d'une passion ou d'une addiction particulière qui nous tourmente depuis des lustres et qui nous semble incurable. Et ces souffrances qui sont propres aux croyants viennent s'ajouter aux souffrances, si j'ose dire, ordinaires, qui sont propres à la condition de tout être humain, à savoir la maladie, les accidents, l'injustice, la haine, la violence, etc., etc. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit, et quand on devient croyant, on n'est pas aussitôt exfiltré de ce monde. Au contraire, à bien des égards, notre vie en tant que croyant devient plus difficile ici-bas que la vie d'un non-croyant. Et ça, à mon avis, c'est ce que certains auteurs bibliques appellent la tribulation au sens large et à laquelle tous les croyants sont soumis pendant leur pèlerinage sur cette terre. Et donc, on ne va pas faire un tour de la salle ce soir pour que chacun puisse vider son sac en énumérant les souffrances qui sont les siennes aujourd'hui, les siennes ce soir. Mais je vous invite quand même à y penser dans le secret de votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait mal aujourd'hui? Physiquement, émotionnellement ou moralement? Quelles sont les situations ou les péchés, ou les gens qui vous font souffrir, peut-être même depuis longtemps, sans qu'il semble y avoir une issue prochaine. Et je vous pose cette question ce soir parce que c'est à ce domaine de votre vie que le texte que nous allons lire et étudier, je pense, cherche à apporter des réponses. Et en effet, vous allez le voir, l'auteur de ce texte, le psalmiste, puisqu'il s'agit d'un psaume qu'on va lire, soulève le problème de ces souffrances intenses parfois, interminables parfois, qui semblent être le lot de tout croyant sous une forme ou sous une autre. C'est ça le problème qu'il va soulever. Et quelle est la réponse de la foi à cette tribulation, si j'ose dire? Eh bien, vous allez voir que le message de ce psaume est somme toute assez simple, comme d'habitude. Dans ta souffrance, si tu es croyant, tu dois te reposer de tout ton poids sur la justice de Dieu. Dans ta souffrance, si tu es croyant, tu dois te reposer de tout ton poids sur la justice de Dieu. Parce qu'en raison de sa justice, il y a deux choses que Dieu va faire, et c'est ça qu'on va voir ce soir. Il va, premièrement, te garder en sécurité, et deuxièmement, il va triompher de tes afflictions. Alors lisons le texte. Il s'agit, comme je l'ai dit, du psaume 129. Un cantique des montées. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce message s'inscrit dans la série de messages que nous consacrons actuellement à ces psaumes qui portent ce titre particulier de Cantique des montées. Il y en a 15 comme cela. Il s'agit des psaumes 120 à 134. Alors lisons le psaume 129. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise! Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a détaché les cordes des méchants. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent tous ceux qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Et les passants ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Ainsi s'achève ce psaume. C'était la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Une fois de plus, Seigneur, nous sollicitons ton aide pour bien comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui au travers de ce texte que tu as inspiré. Et alors, Seigneur, viens à notre aide par ton Saint-Esprit. Éclaire notre intelligence et applique la vérité de ta parole à notre vie. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Dans ta souffrance, si tu es croyant, tu dois te reposer de tout ton poids sur la justice de Dieu. C'est la leçon de ce psaume. C'est un psaume qu'on peut diviser en deux parties, hein, les versets 1 à 4 et ensuite les versets 5 à 8, donc 4 versets dans chaque partie. Et dans ces deux parties, le psalmiste nous invite à considérer ce que Dieu fait en raison de sa justice par rapport à nos souffrances. Ce qu'il fait en raison de sa justice par rapport à nos souffrances. Et la première chose qu'il nous dit, ou peut-être la première chose qu'il nous rappelle, parce que c'est censé être quelque chose qu'on sait, intellectuellement du moins, c'est que Dieu ne compte pas nous épargner les épreuves. Dieu ne compte pas nous épargner les épreuves, mais il nous épargne la défaite. Il ne compte pas nous épargner les épreuves, mais il nous épargne la défaite. Et donc l'auteur parle au verset 1 à 4 de la façon dont lui-même a fait l'objet d'intenses afflictions en tant que croyant. Il insiste au verset 1 sur la fréquence et sur l'importance de ces attaques. Et ensuite, au verset 3, il use d'une métaphore effroyable pour décrire sa souffrance. Vous avez vu ce qu'il dit ? « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. » Et dans cette métaphore, si vous voulez, il compare ses souffrances à l'effet d'une charrue qui, à l'aide d'un soc bien aiguisé, c'est-à-dire la lame de la charrue, creuse de longs sillons, des tranchées dans son dos. Vous voyez ce que c'est qu'une charrue ? Hein, c'est l'instrument qu'on attache de nos jours au tracteur, mais à l'époque c'était à des bœufs, peut-être à des chevaux, et que l'on traîne dans la terre sur toute la surface d'un champ. Alors vous avez le laboureur, le fermier qui met son poids dessus pour que la lame pénètre dans la terre et il creuse des tranchées en découpant la surface de la terre, en soulevant la terre, en la retournant en lame blanc pour préparer la terre à recevoir les semis. Et donc le psalmiste ici, en employant cette métaphore et aussi en employant le style qu'il prend au début du psaume, hein, « Souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse ». Qu'Israël le dise, « Souvent ils m'ont attaqué », vous voyez la répétition, « Souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse ». Le psalmiste n'est donc pas en train de minimiser ici les souffrances qui ont été son lot ordinaire depuis longtemps en tant que croyant. Au contraire, son but ici est vraiment de nous montrer combien elles ont été importantes, ces souffrances, combien elles ont été intenses, combien ça fait longtemps qu'elles durent ou qu'elles ont duré. D'accord ? C'est un peu comme si vous aviez, survécu à un incroyable accident de montagne. D'accord ? Et en racontant cette histoire à vos proches qui n'étaient pas là, vous allez faire en sorte qu'ils comprennent bien que vous étiez dans une situation vraiment horrible et désespérée. Sinon, si vous ne racontez pas l'histoire de cette façon-là, ils ne vont pas trouver que votre survie a quoi que ce soit de bien extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous n'allez pas minimiser la situation dans laquelle vous étiez. Au contraire, vous allez faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle vous étiez. Imaginez, c'était la tempête de neige, c'était le brouillard total, on n'y voyait rien. Vous étiez coincé à 4000 mètres d'altitude, il faisait moins 30 degrés, vous étiez tombé au fond d'une crevasse, vous aviez les deux jambes cassées, même les deux bras cassés, votre téléphone portable n'avait plus de batterie, vous n'aviez prévenu personne de l'emplacement du lieu de votre excursion. Mais vous avez réussi à vous en sortir, comme un héros. Waouh, vous voyez, ça met en perspective les choses et vous êtes là pour pouvoir en parler. Vous soulignez l'importance des difficultés pour mettre en relief l'exploit que représente votre survie dans cette situation. Et de façon un peu similaire, le psalmiste ici est en train de souligner l'importance des afflictions auxquelles il était soumis pour mettre en relief, mais non pas l'exploit qu'il a pu réaliser pour s'en sortir, mais pour mettre en relief la délivrance de Dieu. Au verset 4, il aurait pu dire, voyez, après avoir dit « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Ensuite, verset 4, « Je suis trop fort, j'ai détaché les cordes des méchants. » Il aurait pu dire ça, mais non, pas du tout. L'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants. C'est-à-dire, il est toujours dans la métaphore, c'est-à-dire que Dieu a détaché les cordes qui reliaient la charrue au bœuf qui traînait la charrue. Dieu a épargné le croyant. Il n'a pas permis au mal ou au méchant de l'emporter sur le croyant. C'est ça qu'il dit au verset 4. C'est ça qu'il avait déjà sous-entendu au verset 2 quand il a dit « Ils ne l'ont pas emporté sur moi ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça s'est bien terminé ? Eh bien parce que l'Éternel est juste. Et parce qu'en raison de sa justice, le mal peut gagner des batailles, mais il ne peut pas gagner la guerre. Et ce que le reste de la Bible nous apprend à ce sujet, c'est que Dieu a voulu faire entrer de nombreux hommes, femmes et enfants au bénéfice de sa victoire suprême sur le mal, c'est-à-dire sur la victoire au niveau de la guerre, peut-être pas au niveau des batailles, mais au niveau de la guerre. Et si on entre au bénéfice de la victoire de Dieu sur le mal, on peut être certain non seulement qu'à la fin c'est Dieu qui gagne, mais en plus qu'à la fin c'est Dieu qui gagne en faveur des croyants, en notre faveur. On peut être certain, quand on entre au bénéfice de la victoire que Dieu a acquise sur le mal, on peut être certain que malgré les épreuves, malgré les afflictions, malgré les méchants qui tracent des sillons dans notre dos, malgré la souffrance de l'injustice, la souffrance causée par notre propre péché, malgré toutes ces choses, ici-bas, Dieu ne va jamais, jamais permettre au mal de l'emporter définitivement sur nous. Et comment est-ce qu'on entre donc au bénéfice de la victoire de Dieu sur le mal ? Comment avoir cette assurance ? Aujourd'hui, en ce qui concerne notre avenir, en ce qui concerne notre sécurité éternelle. Eh bien, depuis les premières pages de la Bible, hein, Dieu nous invite à lui faire confiance, à nous reposer de tout notre poids sur sa justice, comme l'a fait le psalmiste dans ce texte. Et il l'a fait sur la base des promesses de Dieu, sur la base notamment de ce qu'il avait promis de faire et de ce qu'il a fait depuis cette époque-là, de ce qu'il a accompli pour nous en son Fils, Jésus, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de David. La mission de Jésus a consisté à arracher les croyants aux mains des méchants, c'est-à-dire des griffes du diable et du péché. Et pour réaliser cela, pour arracher les croyants aux mains des méchants, pour arracher les croyants aux griffes du diable et du péché, Jésus s'est substitué à nous. Et il a pris notre place. Il s'est offert à notre place, en rançon. Et c'est ainsi qu'il est mort sur la croix et qu'il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité en vainqueur. Sa résurrection garantit notre délivrance future, ultime et définitive. Et par le moyen de la foi que nous plaçons en Jésus, nous devenons la propriété de Dieu, de l'Éternel qui est juste et qui ne va jamais permettre au mal de l'emporter définitivement sur nous parce que nous lui appartenons. Parce que nous sommes en Jésus, revêtu de la justice parfaite de Jésus. Et c'est une justice invincible, inégalable. Plus rien ni personne ne pourrait nous ravir de la main de Dieu, parce qu'il nous a rachetés en son Fils Jésus-Christ. Et donc il faut comprendre ici ce que le psalmiste est en train de dire dans ses premiers versets, versets 1 à 4. Il nous dit que Dieu ne compte pas nous épargner les épreuves, mais il nous épargne la défaite. Ou peut-être qu'on peut le dire dans l'autre sens. Dieu nous épargne la défaite, mais il ne compte pas nous épargner les épreuves. Et ça, on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre aujourd'hui. En tant que croyants, nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu nous épargne les souffrances, les épreuves, de quelque nature qu'elles soient. Pour le psalmiste, dans ce texte, le croyant est comme un champ labouré. Il a de profondes cicatrices, de profondes blessures dans le dos. Le croyant souffre ici-bas, parfois longuement, parfois intensément, de diverses manières, comme je le disais, physiquement, émotionnellement, moralement. Nous ne devons pas trouver cela anormal. Vous avez vu l'effet pédagogique de ce que fait le psalmiste au début. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise, c'est-à-dire que l'Église le dise, que le peuple de Dieu le dise, le professe, le clame tout haut. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. C'est normal. C'est ordinaire. C'est notre situation ici-bas. Mais plus ces souffrances sont intenses, plus cela doit nous faire admirer la sécurité qui est la nôtre en Jésus. Et donc, dans ta souffrance, si tu es croyant, tu dois te reposer de tout ton poids sur la justice de Dieu, parce qu'en raison de sa justice, Dieu va te garder en sécurité. Il va te garder en sécurité. Mais deuxièmement, en raison de sa justice, Dieu va aussi un jour triompher de tes afflictions. Il va un jour triompher de tes afflictions. Et ce que le psalmiste nous dit, cette fois au verset 5 à 8, la deuxième partie du psaume, c'est que Dieu va un jour réduire à néant les œuvres de ses adversaires. Dieu va un jour réduire à néant les œuvres de ses adversaires. Et ici, l'auteur, le psalmiste, est en train d'insister sur l'humiliation à venir des méchants, de ceux qui ont de la haine pour Sion, dit-il au verset 5, c'est-à-dire de toute puissance hostile à Dieu et aux croyants. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres passages, on ne sait pas s'il faut traduire ces quelques versets comme une imprécation, c'est-à-dire comme une prière, comme c'est traduit dans ma version ici, qu'ils soient honteux et qu'ils reculent tous ceux qui ont de la haine pour Sion, etc., ou bien comme une prédiction, ils seront honteux et ils reculeront tous ceux qui ont de la haine portion, etc. On ne sait pas, la grammaire hébraïque ne nous permet pas de trancher entre ces deux options. Mais ce n'est pas très grave parce que le sens général de ce passage demeure le même. L'assurance du psalmiste, que ce soit sous la forme d'une imprécation ou d'une prédiction, l'assurance du psalmiste, c'est que toute puissance hostile à Dieu et aux croyants sera un jour définitivement anéantie. C'est son assurance. Et là aussi, l'auteur emploie une métaphore très parlante. Il compare ses adversaires à l'herbe qui pousse sur les toits. Ses adversaires à lui qui sont aussi les adversaires de Dieu, les adversaires de Sion, les adversaires de Jérusalem, les adversaires d'Israël. Il les compare à l'herbe qui pousse sur les toits. Alors il se trouve que lorsqu'on était en Espagne il y a 15 jours avec Suzanne et les enfants, sur la route, on a traversé toute l'Espagne, hein, donc on en a vu du paysage. Et bien sur la route, on a vu des maisons, de vieilles maisons d'habitude, avec de l'herbe qui poussait sur toute la surface du toit. Et c'était des toits un peu comme les nôtres en plus, avec des tuiles, tout ça. Mais il y avait de l'herbe qui poussait sur toute la surface du toit. Mais cette herbe, attention, qui était longue, hein, parfois de 40 cm à peu près, hein, cette herbe ressemblait surtout à de la paille. Elle se tenait droite, elle poussait droit, hein, verticalement. Mais elle ressemblait à de la paille, elle était toute fine, toute éparse, toute desséchée. C'était pas très beau d'ailleurs pour les maisons d'être couvert de ça. Et donc on voit bien ce que le psalmiste veut dire ici en parlant de l'herbe qui pousse sur les toits. Cette herbe-là ne pèse pas grand-chose quand on l'arrache. Elle doit même s'effriter dans la main. Franchement, en la voyant, cette herbe en Espagne, on pouvait tout à fait imaginer de monter sur le toit et d'essayer de la cueillir, de l'arracher. Elle se serait effritée aussitôt dans notre main. Impossible d'en constituer des gerbes, comme il le dit là dans le texte. Impossible d'en constituer des belles gerbes bien grasses et de la mettre sous le bras. Et en plus, quand on pense à l'idée de nettoyer son toit, désherber son toit, c'est plutôt un sale boulot, c'est plutôt une corvée. On se dit, oh, je vais encore devoir monter sur le toit, arracher l'herbe qui y pousse. D'où le verset 8 à la fin du psaume qui, ici, quand on l'a lu, a pu vous paraître un peu curieux, mais en fait, c'est une référence à une coutume de l'époque qui consistait, à l'époque, quand on se baladait dans les champs et qu'on voyait des gens qui ramassaient, qui moissonnaient le fruit de leurs champs, les céréales, et qui constituaient leurs gerbes, la coutume de l'époque, c'était de les saluer et de les bénir au nom de Dieu. Mais là, il dit, non, ceux qui ramassent l'herbe sur leur toit, les passants, ils vont pas les bénir. Parce que ça n'a rien à voir avec ceux qui ramassent ces magnifiques gerbes de céréales dans leurs champs. Ceux qui ramassent l'herbe sur leur toit, ils font un sale boulot. Ils ramassent de la paille qui s'effrite aussitôt. C'est rien de glorieux. C'est rien d'impressionnant. C'est juste une petite corvée, certes nécessaire, mais insignifiante. Et un jour, les adversaires de Dieu et des croyants seront comme cette herbe. Voilà ce que dit le psalmiste. Ils seront humiliés. Leurs œuvres seront réduites à néant. Elles pèseront rien du tout. Et c'est l'assurance du psalmiste ici. Il est un peu, quand il écrit ce psaume, le psalmiste, il est un peu, peut-être comme un prisonnier dans un camp de concentration en 1944 qui a reçu la nouvelle du débarquement en Normandie et qui reçoit régulièrement des nouvelles de la progression des troupes alliées en France. Mais cette connaissance qu'il a, peut-être par des moyens détournés, du milieu de sa prison, de son camp de concentration, cette connaissance qu'il a, est-ce que, objectivement, elle atténue les sévices dont ce prisonnier fait l'objet, aux mains de ses bourreaux ? Non. Peut-être même que son traitement empire, sous la colère de ses ennemis qui savent qu'ils sont perdus. Mais combien, en même temps, le courage et la persévérance du prisonnier redouble, et cela de jour en jour, au fur et à mesure que ses libérateurs approchent, et qu'approche le jour de sa délivrance, pleine et entière. Et de la même façon, le psalmiste met devant nos yeux la destinée de toute puissance hostile à Dieu et à son peuple. Que ce soit la puissance du diable, la puissance des hommes, la puissance du péché, cette puissance sera un jour réduite à néant. Et ce jour, il approche. Chaque matin, nous en sommes un peu plus près. C'est inéluctable et on peut en être certain parce que, après sa résurrection triomphale, Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père, au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de toute la création. En fait, c'est ça que commémore le jour de l'Ascension, qui était cette semaine. C'est que, après être ressuscité en vainqueur, Jésus ensuite est monté au ciel. Et toutes choses lui ont été soumises. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous subissons, tout ce dont nous faisons l'expérience, mais même ce qui nous est invisible, tout cela a été placé sous les pieds de Jésus. Et rien ni personne ne va changer cette situation. C'est ainsi. Et le jour de son retour glorieux approche. Et le jour du jugement des méchants approche. Mais le jour de notre entrée dans la gloire, délivrés que nous serons de toutes nos afflictions, approche également. Et donc le psalmiste dans ce texte veut nous convaincre de cette réalité, à travers cette imprécation ou prédiction, peu importe. Il veut nous convaincre de cette réalité. Dieu va un jour réduire à néant les œuvres de ses adversaires. Ce qui vous afflige aujourd'hui même, à cette heure précise, 6h-5, que ce soit une situation qui vous cause des souffrances, que ce soit un péché particulier, que ce soit une personne. Ce qui vous afflige aujourd'hui n'aura un jour plus aucun effet sur vous. Plus aucun effet sur vous. Peut-être que Dieu va vous délivrer ici-bas, dans sa grâce. Peut-être qu'il va vous enlever cette écharde dans la chair, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul. Peut-être qu'il va éloigner de vous cet ange de Satan qui vous soufflette, pour reprendre une autre expression de l'apôtre Paul. Peut-être qu'il va le faire dans sa grâce. Il est souverain, il en est capable. Et gloire à Dieu s'il le fait. Gloire à Dieu s'il le fait. Mais en attendant, peut-être qu'il veut vous enseigner, comme il voulait le faire avec son apôtre Paul, peut-être qu'il veut vous enseigner que sa grâce vous suffit. Peut-être que vous allez continuer à souffrir de cette manière jusqu'au jour de votre délivrance ultime, le jour du retour glorieux de Jésus-Christ ou de votre entrée dans la gloire. Mais soyez certains en tout cas, soyez certains dès aujourd'hui et dès cette heure précise que ce jour approche et qu'il est inéluctable. Puissions-nous être caractérisés par la même foi et la même persévérance que celle que l'apôtre Paul loue chez certains chrétiens de son époque, les chrétiens de la ville de Thessalonique, lorsqu'il leur écrit ceci, et je cite assez longuement l'apôtre Paul ici, « Nous nous glorifions de vous, c'est-à-dire de ces chrétiens-là, dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, c'est-à-dire dans vous et moi, glorifié dans ses saints, glorifié dans les croyants, dans les chrétiens, et, ajoute-t-il, admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Ce jour approche où Jésus sera glorifié en vous et admiré en vous. Quelle est donc la réponse de la foi à notre tribulation, si j'ose dire, ici-bas? Quelle est la réponse de la foi à ce qui nous fait mal aujourd'hui, ce qui vous fait mal aujourd'hui peut-être, physiquement, émotionnellement ou moralement? Quelle est la réponse de la foi à ces situations, ces péchés ou ces gens qui vous font souffrir, peut-être depuis longtemps, sans qu'il vous semble y avoir une issue prochaine? Eh bien, le message de ce psaume, je le répète, dans ta souffrance, si tu es croyant, tu dois te reposer de tout ton poids sur la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, en raison de sa justice, premièrement, il va te garder pour toujours en sécurité si tu es attaché à Jésus par la foi. Et parce qu'en raison de sa justice, deuxièmement, Dieu va un jour triompher définitivement de ce qui t'afflige aujourd'hui et de ce qui t'affligera peut-être demain ou après-demain. Et je voudrais terminer rapidement avec juste deux applications et une citation. Que faire concrètement au milieu de nos souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou morales? Ce psaume nous incite, à mon avis, premièrement, à nous imprégner des promesses de Dieu, à nous imprégner des promesses de Dieu, comme le psalmiste lui-même, en écrivant ce psaume, est imprégné des promesses de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour s'imprégner des promesses de Dieu? On le fait en les lisant, ces promesses, et en les relisant dans sa parole. On le fait en sollicitant dans la prière l'aide puissante du Saint-Esprit. On le fait en recevant le témoignage, l'encouragement et le soutien de nos frères et sœurs en Jésus, les frères et sœurs de l'Église. On le fait enfin en contemplant et en méditant quotidiennement la croix de Jésus-Christ, où Dieu le Père a scellé toutes ses promesses dans le sang de son Fils. Et deuxièmement, ce psaume nous incite à prier comme le psalmiste, c'est-à-dire à ne pas nous laisser abattre ou intimider ou culpabiliser par nos souffrances, quelle que soit leur nature ou leur origine, mais plutôt à les dire, à Dieu, bien sûr, en premier lieu. Allez dire, allez professer, qu'Israël le dise, dit-il dès le début de son psaume. Allez dire, allez professer, allez confesser, allez déplorer avec une vigueur proportionnelle à la douleur et à la frustration qu'elle nous cause. Et prier comme le psalmiste, c'est aussi invoquer avec courage, invoquer hardiment la délivrance de Dieu. Et non seulement sa délivrance personnelle, dans notre vie personnelle, mais encore son intervention en vue de faire reculer nos adversaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, que ces adversaires soient des personnes, des situations ou des péchés particuliers dans notre vie, ou des passions, des désirs ou des choses comme ça. Sachant que Dieu est capable d'intervenir. Il est capable de le faire immédiatement, hein. Il peut le faire maintenant en votre faveur. Mais bien souvent, il choisit de nous enseigner la foi et la persévérance à la place, en attendant notre pleine délivrance, qui, quant à elle, approche inéluctablement, car elle est garantie par la résurrection et l'ascension de Jésus auprès du Père. Et enfin, comme je vous l'annonçais, une citation pour finir, une autre citation de l'apôtre Paul. Et dans ce texte que je vais vous lire, il est plus court, il parle ici de son expérience en tant qu'apôtre. Mais de manière indirecte, il fait référence aussi à l'expérience de tout chrétien. Voici ce qu'il dit. Et vous allez voir qu'il y a là des échos du psaume que nous venons d'étudier. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. » Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Un peu plus loin, il ajoute, « Nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître en sa présence. » Et un peu plus loin, « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Car un moment de légère affliction... » Après avoir dit qu'il avait été persécuté, abattu, machin, tout ça, pour lui, c'est qu'un moment de légère affliction, dit-il. Mais vous allez comprendre pourquoi. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Je vous invite à la prière. Merci de nous rappeler, Seigneur, qu'il est normal de souffrir ici-bas. Tu ne comptes pas nous épargner les épreuves, mais ce que tu nous épargnes, et c'est certain, c'est la défaite, parce que nous sommes en sécurité, dans une sécurité éternelle, si nous sommes attachés à Jésus par la foi. Tu nous as aussi rappelé que le jour vient où ta justice va prévaloir de manière souveraine, inéluctable, parfaite, et tu vas réduire à néant les œuvres de tous ceux qui nous affligent, que cela soit des personnes, des situations ou des péchés dans notre propre vie. Tu vas réduire tout cela à néant et tu vas glorifier ton Fils Jésus en nous. Tu vas le faire admirer en nous. C'est mystérieux, on ne comprend pas, Seigneur, comment cela va se passer exactement. Mais c'est en tout cas la promesse de notre délivrance certaine et qui approche. Merci donc. Amen.